Dans la première épître de Pierre, chapitre 1er, les cinq premiers versets que nous avons déjà commencé à aborder la semaine dernière. Je lis. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion au pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie. Élus, selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu, par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est la parole de Dieu. Amen. Le grand thème de Pierre, je suis très... j'ai été frappé quand le Seigneur m'a demandé d'ouvrir l'épître de Pierre pour en parler dans ses messages. Je suis très frappé que Pierre, qui n'est pas du tout théologien, et il ne prétend pas l'être d'ailleurs, c'est un pêcheur tout simple, toute personne qui n'a pas fait d'études, contrairement à Paul. Paul a fait des études très très poussées. Né à Tarse, les parents sont déménagés à Jérusalem, il a suivi une école rabbinique, un des plus grands Nicodème qui l'a formé, etc. Pierre non, c'est un pêcheur, il pêchait des poissons, voilà. Pas de culture particulière. Et d'écrire ce qu'il a écrit, quand j'ai pris ses premiers versets, j'ai dit waouh. Et en fait, c'est de l'inspiration pure. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré ces passages. D'ailleurs, lui-même le dit. Il a dit « Toute écriture est inspirée », etc. Et là, c'est une inspiration sur une démonstration théologique. C'est la théologie qu'il a fait. Voilà. Mais sans même le savoir. Et là, j'étais étonné parce que j'ai retrouvé, en relisant, ce n'était pas du tout cette démarche que j'avais faite, eh bien, ce qu'on va faire prochainement, la vision que vous allez réécrire, l'organisation dont on va reparler avec la venue de Pierre-André, etc. Ben, tout ça, c'est là-dedans. Tout ça, c'est dans Pierre. Voilà. Donc, je suis très, très étonné. Et le principal thème, c'est l'unité. C'est l'unité. Pas étonnant, parce que moi j'étais un peu comme Maggie, j'étais dans l'industrie, juste à côté, fabriquer des fusées, des satellites, tout ce qui fait rêver. Moi ça m'a fait rêver quand j'étais adolescent, et le Seigneur a permis que je rentre dans cette activité. J'aurais pu prendre des avions, mais finalement le Seigneur a conduit dans les fusées et les satellites. Et je me suis passionné toute ma vie à ça. Et le Seigneur m'a demandé aussi de le servir en tant que pasteur. Donc j'ai deux vocations que j'ai menées à terme, toutes les deux, par la grâce de Dieu. Parce que ce n'est pas évident. Et j'ai beaucoup souffert, en particulier lors des moments de combat spirituel. Et surtout là, ce que j'ai souffert, c'est de voir qu'au travail, ça se passait très bien, et à l'église, ça se passait très mal. Et j'ai cette capacité, enfin j'ai ce privilège d'avoir eu les deux expériences. Et dans l'Église, quand on est venu ici, c'était une catastrophe au niveau de l'unité. L'unité, ça se déchirait. Les anciens sont partis, voilà, à droite, à gauche, enfin la division. Or, l'unité, mes chers amis, c'est pour ça que j'ai dit au Seigneur, je veux bien continuer dans le ministère, mais à condition qu'il y ait l'unité. S'il n'y a pas d'unité, ça ne sert à rien. Et d'autant plus que, vous savez, le contraire de l'unité, c'est quoi ? C'est la division. Et qui est le père de la division ? C'est le diable. C'est Satan. Il y a tout un tas de noms. Satan, c'est l'opposant. Le diable, c'est le diviseur. Etc. Bon. Et nous savons, nous, évangéliques, que Satan, ce n'est pas juste un principe. un jour on fasse, vous savez, un restaurant, si vous voulez y aller, c'est pas cher. C'est des jeunes qui apprennent et c'est juste le prix coûtant. Hein. Voilà, donc vous pouvez y aller. Et j'avais emmené avec moi le vicaire général du diocèse des Yvelines. Et pendant le repas, on a bien sûr parlé de la foi et tout. Il m'a dit, ah ben, moi, le diable, c'est un principe. Disons, n'existe pas, si vous voulez. C'est un principe du mal. Voilà, vous voyez. Donc on peut avoir une vision du diable tout à fait différente de celle que la Bible nous présente, même si on est responsable, ce qu'il aurait pu être facilement évêque, ce que le vicaire général souvent devient évêque. Et voilà la position. Alors que il me semble que dans l'Évangile, Jésus a affaire vraiment au diable. Voilà, en tout cas, c'est notre foi, notre croyance. Et donc, on peut shifter en disant, bon, c'est un principe du mal, voilà. Donc, faut tenir compte, vous voyez, comme les lois physiques, on tient compte du mal, etc. Mais si on considère que le diable est un diviseur et que c'est une entité, un être qui a été créé. Eh bien, il faut faire attention. Parce qu'en plus, en tant qu'être, ce n'est pas un robot, c'est qu'il a une intelligence du mal. Il a, enfin, l'intelligence. Il a une intelligence pour savoir comment diviser. Voilà. Donc j'ai vécu ça et j'ai dit, Seigneur, jamais, si je reprends, c'était le cas 98, la responsabilité, si tu me demandes de la reprendre, je veux que ce soit l'unité. Donc ça me parle particulièrement, ce passage, sur l'unité. Comment éviter de se diviser? Parce que tout ce qui divise sert le royaume de Satan et tout ce qui est uni sert le royaume de Dieu. Et je suis étonné que Pierre en parle de manière savante. L'unité n'est pas à faire, comme souvent, ça je l'ai appris aussi avec Ricardo, qui a dit, mais l'unité, tout le monde cherche l'unité. L'unité avec les catholiques, l'unité avec les protestants, l'unité entre les protestants, qui sont beaucoup plus divisés, etc. À l'intérieur du catholicisme, ils sont autant divisés, mais voilà, disons, ça se voit moins. Donc, ces divisions, c'est une réalité. Et donc, il faut chercher l'unité, ça s'appelle l'œcuménisme. Bien, mes amis, j'ai une nouvelle à vous apprendre. L'unité n'est pas à faire, elle existe. Ouais, elle existe, c'est la parole de Dieu. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 3, il a dit « Efforcez-vous de conserver l'unité. Ouais, » De conserver l'unité. Dans les liens de la paix. Donc c'est une vision différente de la construire ou de la conserver. Voilà. Et pourquoi la conserver? Bah, elle existe en Dieu. Elle existe en Dieu. C'est la Trinité dont on reparlera effectivement. Alors, si on prend le verset 2, le verset premier, on l'a longuement partagé la semaine dernière, le verset 2 dit Dieu le Père vous a choisi d'avance conformément à son plan. Donc Dieu a un plan. Amen. Il a un plan. Voilà, c'est pas, voilà, il fait pas les choses n'importe comment. Il a un plan. Donc Dieu le Père nous a choisi d'avance. Nous a élus. D'autres traductions parlent d'élection, de choix en tout cas. Et ça, c'est le Père qui le fait. C'est pas Dieu simplement, c'est Dieu le Père. Ensuite, le verset 2 continue en disant, vous lui avez été consacré par l'Esprit. Donc, vous voyez, l'Esprit a une fonction, un rôle, si vous voulez, spécifique, qui est différent du Père. Consacré par l'Esprit. Consacré, hein, c'est vraiment dédié entièrement à la cause du royaume. Et pour obéir à Jésus-Christ et être purifié par l'aspersion de son sang. C'est très concis, c'est très clair, mais c'est dédié, c'est cette unité d'ensemble de ce plan, eh bien, confiée aux trois personnes de la Trinité. Et il termine que la grâce et la paix vous soient abondamment accordé. Alors ça nous a ramené, j'en ai parlé, donc je vais assez vite là-dessus, au Shema Israël. Le Shema Israël, c'est ce credo du peuple d'Israël que les mères de famille, en tout cas, récitaient tous les soirs. à leurs enfants. C'est une prière tous les soirs. Et j'ai lu un témoignage d'une Palestinienne qui avait une ceinture d'explosifs devant les soldats israéliens dans un sanctuaire. Et les soldats étaient là et elle était prête à tirer sa ceinture. Quand un des soldats a récité, il a pris sa tête comme ça, il a dit ça y est, on va mourir. Donc il a prié cette prière, Shema Israël, Adonai et Eloheinu, Adonai Echad. Et là, la fille est fondue en larmes et s'est mise à genoux. Et ils ont été sauvés. Et ensuite, après, quand ils l'ont interviewé, ils ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, quand ce soldat a fait cette prière ? Elle a dit, ma maman était israélienne et m'a appris cette prière tous les soirs. Et là, l'émotion est revenue et elle était saisie. Vous voyez, ils ont été sauvés grâce à cette prière. C'est une prière qui est basique. C'est le credo, si vous voulez, d'Israël. Et qu'est-ce qu'il dit, ce credo ? Eh bien, il dit que notre Dieu, donc le Dieu d'Israël, et notre Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est Echad. Et Echad, ça veut dire un. Alors, bien sûr, il est seul, il est unique, mais il est l'unité de plusieurs. Pourquoi ? Parce que dans la Bible, vous trouvez le nom de Yahvé, qui a été traduit par Louis II, l'Éternel, parce qu'il a cherché un nom français. C'est Yahvé, qui est un seul, mais une unité multiple, parce que Dieu se révèle aussi comme Elohim. Vous prenez Genèse 1, verset 1. L'Éternel, au commencement, l'Éternel créa, l'Éternel c'est Elohim, c'est pas Yahvé, voyez, c'est plusieurs. Donc Elohim, c'est un plusieurs inséparable. Bien sûr inséparable, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais il y a plusieurs. Donc il y a plusieurs dieux et un seul Dieu. Voilà. Et là, non, on est confronté à notre cher dualisme qui n'arrive pas à intégrer ça. Alors on le prend par la foi, mais le problème c'est que les chrétiens occidentaux, je parle, pas orientaux, occidentaux, vous savez, il n'y a pas que la foi, il y a aussi le raisonnement. Moi je raisonne, ma femme raisonne, vous raisonnez, enfin, vous parlez, vous raisonnez, vous discutez, voilà. Donc ce raisonnement se heurte à cette compréhension, et du coup, quand on prend des décisions, des choses comme ça, on oublie le Echad. Parce qu'on n'est pas israélien, parce qu'on n'est pas hébreu, parce qu'on n'est pas orienté. Et donc on est occidental. Et on est poussé à raisonner de manière duale. Et donc, du coup, on le sait et on ne l'applique pas. Et ça, je le vois en permanence. Et je vous donnerai quelques exemples de ce que toute l'Église, en général, occidentale en particulier, eh bien, est divisée à cause de ce problème de raisonnement sur... pas que Dieu, mais aussi tout le reste de la doctrine chrétienne. Je vous ai dit, j'ai pris quelques exemples, et vous pouvez écouter la vidéo, puisque là je ne vais pas le refaire, que dans tout l'Ancien Testament, le modèle que Dieu a donné à Moïse, c'est le tabernacle. Il lui a montré le tabernacle quand Moïse est entré en contact avec Dieu, qui lui a donné cette mission de sortir le peuple d'Égypte. Et ce peuple voulait adorer Dieu, il en était empêché en Égypte, et il lui a donné le modèle du tabernacle, qui est un modèle de représentation de ce qui se passe dans le ciel. Et il fallait que Moïse puisse suivre tous les détails. Et si vous regardez dans Deutéronome et dans le premier livre de la Bible, la Torah, eh bien vous voyez tous les détails du tabernacle. À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Alors c'est dommage, nous on avait un pasteur qui était venu avec un tabernacle qu'il avait construit lui-même, assez grand, faisait près de 2 mètres carrés, 3 mètres carrés, et il avait fait tous les détails, et tous les soirs, pendant une semaine, il nous expliquait tous les détails, à quoi ça renvoyait, puisque ça renvoie dans le ciel des réalités, vous voyez, c'est pas... Et c'est dommage qu'on n'ait plus ce pasteur, il est mort depuis, enfin il est mort, pas depuis, mais il est mort, et regardez peut-être sur internet s'il y a ceux qui s'intéressent à la Bible et à ça, bien regardez les détails du tabernacle. Eh bien, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments dans le tabernacle. Par exemple, l'arche. Vous prenez l'arche. L'arche, il y a le coffre. Et je vous disais qu'il est recouvert d'or, mais pas uniquement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, alors que ça ne se voit pas. Et ça, ça renvoie à ce que nous, on doit être à l'intérieur et à l'extérieur intègre. On ne doit pas être schizophrène, etc. Donc le chrétien, vous voyez, ça explique des choses très, très concrètes. Et les chrétiens, voilà, qui ont deux faces, eh bien, voilà, ils ne sont pas selon le modèle du TBA, qui est le modèle dans le ciel. Donc, il y a beaucoup d'éléments, dont, par exemple, les chérubins qui sont là-haut, vous voyez, les anges là qui protègent, eh bien, ces chérubins sont très compliqués à fabriquer, mais il était interdit de les faire en plusieurs morceaux. Il fallait qu'ils soient d'une seule pièce. Le tabernacle lui-même, enfin le coffre, les barres qui étaient là, il fallait qu'elles restent, parce qu'elles servaient au déplacement du coffre. Il fallait qu'elles restent, justement, pour renvoyer cette unité dans la diversité. Donc là, déjà, dans ce modèle, se trouvent les principes mêmes de l'unité. Ensuite, la menorah. C'est pareil. Alors, si vous regardez en détail la menorah, c'est extrêmement précis avec le détail des fleurs qui sont sur la menorah. Ben, tout ça était imposé en étant d'une seule pièce. Extrêmement compliqué. Il fallait de l'habileté pour faire ça. Eh bien, parce que ça renvoyait à une réalité. Et c'est pour ça que les Israélites étaient très soucieux d'obéir à la parole. Et nous, voilà, tout simplement parce qu'on est détaché de ces réalités, détaché de ce qu'un modèle représente une réalité. C'est symbolique, mais c'est une réalité. Prenez le peuple. Le peuple, c'est tout un tas de gens, que ce soit en Israël, que ce soit maintenant dans l'Église. Dans Israël, il y avait des tribus, il y avait tout plein de gens différents, etc. Mais c'est plusieurs, mais c'est un seul peuple. Dieu a un seul peuple. Aujourd'hui, l'Église, c'est un seul peuple. Et un seul peuple avec des races, des différences considérables entre les personnes. Eh bien, tout ça, c'est un. C'est Echad. Echad, c'est un et multiple. Vous voyez ? Et donc, tout ce modèle du tabernacle renvoie à ça. Alors, si on lit le verset 2, choisis, nous sommes choisis par le Père, purifiés par le Fils et sanctifiés par l'Esprit. Vous voyez, les trois éléments de la divinité, qui sont trois dieux, mais qui sont un seul dieu, hein, voilà, puisque un seul et plusieurs, eh bien, ils ont une certaine activité. Alors, j'ai pris trois traductions, parce que chaque traducteur prend un mot qui souvent est utilisé dans des phrases différentes, hein, donc vous pouvez choisir un mot ou un autre. Voilà, suivant les fréquences, l'idéal ce serait de lire dans l'original, hein, mais moi je ne lis pas ni en hébreu ni en grec. En tout cas, si on lisait dans l'original, on comprendrait peut-être un peu mieux. Et encore, ce n'est pas facile. Hein, tous ceux qui font disent que ce n'est pas si simple que ça de connaître le grec et l'hébreu. Il faut encore connaître le contexte, etc. Donc je lis cette traduction « élu ». Selon la préscience, donc une science première, hein, préscience de Dieu, le Père, par l'Esprit sanctifiant, donc c'est la notion de sanctifier, sanctification, pour obéir à Jésus-Christ et pour obtenir l'aspersion de son sang. Deuxième traduction, élu, nous sommes donc élus par la préconnaissance, donc ça c'est gnosis, hein, préconnaissance de Dieu, le Père. En sainteté de l'esprit. Oui, c'est une façon d'amener la notion de sainteté pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Christ. C'est plus ou moins les mêmes traductions concernant l'activité de Christ. Et je le prends en anglais, parce que soi-disant ce sera la langue du ciel, enfin pour Julie. Elect, donc élu, according to the foreknowledge. Donc la préconnaissance de Dieu le Père, par la sanctification, donc là le mot est lancé, la sanctification de l'Esprit, dans le cadre d'une obéissance et de l'aspersion du sang de Jésus. Ça, c'est une. Donc, c'est Pierre qui l'a écrit, pas théologien, mais qui traduit une inspiration qu'il a reçue de Dieu pour le transmettre à nous, qui aujourd'hui sommes au bénéfice de cette parole. Le mot que je développerai, mais pas aujourd'hui, puisque mon temps est expiré, c'est l'aspect de la sanctification. Sanctification amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de divisions. Et divise complètement, je ne parle pas de l'Église catholique, je parle de notre Église protestante dont nous faisons partie, parce que nous remontons à la Réforme, eh bien, elle est divisée complètement sur la sanctification. Chacun a son idée sur la sanctification. Élu par le Père, bon, là aussi, il y a des approches différentes, la prédestination, etc. Mais la sanctification fait vraiment une différence. Et j'aimerais que, dans l'Église, on puisse considérer ce que c'est que la sanctification. Parce que suivant la vision qu'on a de la sanctification, les conséquences entre nous ne sont pas les mêmes. Conséquences relationnelles, d'approche, etc. Et donc, j'aimerais vous donner... Eh bien, les résultats du verset 3. Parce que Pierre, il continue dans le verset 3, qu'on ne va pas prendre aujourd'hui, mais ce verset 3, eh bien, va beaucoup plus loin que le verset 2. Et malgré le fait que Pierre soit juste un pécheur, eh bien, il traduit cette unité de collaboration entre Dieu et nous. Et ça, c'est la sanctification. De collaboration entre Dieu et nous. Mais il y en a qui ont des visions différentes, duales, en disant non, 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 la grâce parfaite, Dieu voilà, donne la grâce. Hein. Et ils ont déformé au passage la pensée de Calvin. Et d'autres disent non, c'est libre arbitre, nous sommes libres de choisir, etc. Et en fait, en réalité, les deux sont vrais. Mais pour ça, il faut eh bien, rentrer dans cette notion de pensée complexe qui amène l'un et le multiple en même temps. Et c'est ça que j'aimerais développer la prochaine fois. Je vais juste terminer là-dessus pour dire que notre vision-action est basée là-dessus, justement, pour éviter ce dualisme où il y a l'appel du Père, il y a la mission, puisque Jésus a reçu une mission par le Père, et le devenir, c'est le Saint-Esprit qui fait entrer dans le plan. Qui fait s'accomplir le plan de Dieu. Voyez. Donc ces trois éléments qui, quand ils sont pris comme des choses qui sont établies, hein, voilà, et dans lesquelles il faut les faire fonctionner, eh bien, on peut être conforme à la manière dont Dieu agit au sein de la Trinité. Élu, donc prédestiné ou appelé par le Père, sanctifié, donc la notion de sanctification par l'Esprit, pour l'obéissance, qui est une mission. Jésus a donné une mission à ses disciples, comme lui-même l'a reçu du Père, mais lui a reçu la mission de sauver l'humanité, de sauver du péché. Nous, ça, on a pu à le faire. Mais on a mission d'obéir à Christ, mission d'obéir au Père, mission d'obéir à la parole. Et l'aspersion du sang, c'est que sous l'angle de la justification, nous sommes justifiés. Et la justification, sans la justification, nous ne pourrions pas servir de la même manière dont nous servons. Nous pourrions faire des efforts, c'est une religion, hein, comme beaucoup de religions poussent à faire des efforts. Donc, vous voyez, la notion de sanctification résume un petit peu la complexité entre la justification et l'effort que nous avons à faire. Efforcez-vous, dira l'apôtre, que ce soit Pierre ou Paul. Donc on y a un effort avec la grâce. Donc la question de la sanctification qui est clivante, parce que c'est du déjà pas encore sanctifié. Nous sommes sanctifiés, nous sommes saints, parce que par la justification, nous ne pouvons pas faire plus que nous justifier, nous ne pouvons pas justifier nous-mêmes. Donc c'est toujours recevoir la justification par le Seigneur hein, en acceptant son sang. Et dans le culte rite d'Israël, le souverain sacrificateur, il prenait du sang et il aspergeait avec des rameaux, je ne sais plus ce que c'était, de l'hysope. Eh bien, il aspergeait la foule parce qu'il fallait que des gouttelettes de sang viennent sur la foule. Et ça, nous aujourd'hui, on ne le fait plus puisque Jésus l'a fait une fois pour toutes. Et ces gouttelettes de sang que nous recevons de Jésus, c'est par la foi. Nous recevons par la foi la justification. Et si nous pouvons venir à la table du Seigneur, c'est parce que nous sommes justifiés et que nous pouvons entrer dans la présence du Père parce que le voile a été déchiré. Donc vous voyez, tout ça, ça prend sens. Ça a été établi dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle, et aujourd'hui, nous le vivons comme un accomplissement de cette réalité. Sauf que l'accomplissement n'est pas fini, puisqu'il nous faut attendre le deuxième retour de Jésus pour être totalement sanctifiés. Nous sommes sanctifiés en partie, mais dans notre chair, nous continuons à en pécher. Et l'apôtre Pierre dira, si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, c'est qu'il est menteur. Et nous savons tous que nous continuons à pécher. Donc nous avons besoin de cette purification par le sang qui est répandu sur nous. Mais ce sang est toujours efficace. Même si nous péchons, nous pouvons redemander pardon au Seigneur. Ceci étant, il ne faut pas pécher exprès. Voyez. Alors, si on comprend mal cela, j'ai lu à son époque que dans l'Église catholique, il y en a qui péchaient 3-4 fois dans la journée exprès pour pouvoir prendre l'Eucharistie, voyez, pour être efficace. Donc, voyez, on arrive à des aberrations de ce genre. En termes de religion. Donc nous, bien sûr, si on a péché, on ne va pas pécher exprès pour manifester la grâce, mais on va tout faire pour ne pas pécher, mais si on pêche, le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner. Voilà, donc vous voyez, c'est cette mesure, cet équilibre, la sanctification, qui est très, très difficile et qui est clivante. Et là, je n'ai pas le temps, mais la prochaine fois, je vais essayer de vous développer ce clivage à l'intérieur même du christianisme qui pose problème. Et je voudrais que nous, en tant qu'Église, nous ne puissions pas vivre de clivage, mais nous puissions vivre l'unité. Amen. Et deuxième chose, ce sera à partir de ce livre que je vous ai abondamment recommandé, qui est le deuxième élément de l'unité dans la Trinité, au sein de la Trinité. Nous n'adorons pas trois dieux, mais nous adorons un seul Dieu en trois personnes. Et ça, c'est le panthéon chrétien, que justement, on voit qu'aujourd'hui, même des évangéliques, soit adorent le Saint-Esprit, adorent Jésus, ou adorent le Père. Non, c'est un seul Dieu. Oui. Et donc, on va aller un peu plus loin. Et ça, c'est ce que Pierre nous a donné au travers de ce message et bien sûr de toute l'épître qui suit. Mais je vais m'arrêter là et je vais demander au Seigneur de travailler nos cœurs. Et je vous invite peut-être à lire ces épîtres de Pierre pour vous imprégner, que le Saint-Esprit lui-même puisse vous parler de manière concrète comment on peut vivre aujourd'hui la foi dans ce Dieu trinitaire qui est à la base de notre foi et pour lequel la première Église et tous les pères de l'Église, les trois premiers siècles, ont été posés des bases avant que l'Église devienne une Église de multitude, avec l'ouverture que l'empereur Constantin a fait. Mais nous voulons rester fidèles à l'enseignement de la parole. Seigneur, nous avons tellement besoin que tu nous rétablisses dans la vérité de ta parole, la vérité de ta révélation. Seigneur, tu as parlé en son temps à ton peuple Israël, en partant de Moïse qui a construit le peuple, qui a constitué le peuple d'Israël, jusqu'à nos jours. Seigneur, c'est une continuité. Et ce que tu as enseigné dans l'Ancien se réalise dans le Nouveau. Et Seigneur, aujourd'hui, nous attendons ton retour pour avoir pleinement le plan ultime et final, Seigneur, de tout ce que tu as prévu. Et Seigneur, ça, c'est l'Apocalypse, Seigneur, dans laquelle nous voulons entrer et nous disons, Maranatha, Seigneur, viens, délivre-nous de toutes ces choses pour que nous puissions vraiment te connaître. Et en attendant, que nous puissions obéir à ta parole, obéir à ton esprit, obéir, Seigneur, à tous tes commandements. Et nous te le demandons, Père, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen.